Radio Okapi. Les journaux, Gisèle Cage.
Merci d'être à l'écoute de cette nouvelle édition du journal. Nous sommes ravis de vous savoir nombreux au rendez-vous. Voici les titres de l'actualité. Un tournant historique dans le partenariat Banque mondiale RDC. La banque engage un appui financier de 8 milliards de dollars en faveur de la République. Ce financement exceptionnel vise à soutenir des projets à fort impact socio-économique inscrits dans le programme d'action du gouvernement. Albert Zefak, directeur pays de la Banque mondiale en RDC, et l'invité de ce journal, il éclaire les priorités de cette coopération renforcée et les secteurs clés ciblés par cette enveloppe. Le centenaire du héros de l'indépendance, ce mercredi 2 juillet, la RDC a rendu hommage à l'un de ses plus illustres fils, Patrice Emery Lumumba. À l'occasion du centenaire de sa naissance, le parti lumumbiste unifié rappelle que Lumumba reste une figure emblématique des idéaux de dignité, de souveraineté et de liberté du peuple congolais. Béni, recrudescence de l'insécurité dans la commune de Rouenzori. Des hommes armés sèment la terreur dans plusieurs quartiers. Les autorités locales assurent avoir renforcé les dispositifs sécuritaires pour tenter de contenir cette menace. Bonjour à tous. Nous ouvrons ce journal avec un engagement financier majeur en faveur de la RDC. La Banque mondiale s'engage aux côtés de la RDC avec une enveloppe de 8 milliards de dollars destinée à soutenir des projets à fort impact socio-économique. À l'antenne de Radio Okapi, le directeur pays de l'institution Albert Zefak précise que ce financement s'inscrive dans le cadre du programme d'action du gouvernement, incluant notamment le développement stratégique du barrage Inga 3. Il insiste sur la nécessité d'une exécution rigoureuse et responsable pour améliorer concrètement les conditions de vie des Congolais. Albert Zefak, au micro de Blaise Ndongala Mayanda.
Le partenariat entre la Banque mondiale et la République démocratique du Congo est robuste et se porte bien. Nous avons, au cours des trois dernières années, non seulement mis en œuvre des projets qui sont censés changer la vie des Congolais, par exemple les projets d'eau potable, les projets d'éducation, les projets de santé, mais aussi lancer des projets d'infrastructure d'envergure comme l'autoroute qui partira de Bujimayi jusqu'à Bukavu. Et ces nouveaux projets viennent aussi dans la même lignée des projets transformatifs dont le barrage de Inga, mais aussi tout le corridor d'infrastructures et de développement qui pourrait partir de l'océan Atlantique jusqu'à Kinshasa. Il ne s'agit pas seulement d'avoir du financement, il s'agit de transformer ce financement en meilleures conditions de vie des populations par une mise en œuvre transparente, une gestion sans corruption et un contrôle de gestion efficace.
Nord Kivu, les opérateurs économiques de Beni et Butembo renouvellent leur engagement en faveur du plan de développement conduit par le gouverneur Somo Kakule. Ce soutien a été exprimé ce mercredi à l'issue d'un échange avec l'autorité provinciale. Au cœur des discussions, les grandes priorités définies par le gouverneur pour impulser le progrès dans la région. Polycarpe Ndivito, président de la Fédération des entreprises du Congo pour la zone Butembo-Lubero, a souligné que malgré le climat d'insécurité persistant, les acteurs économiques doivent rester aux côtés du gouverneur afin de contribuer à la stabilité et au développement local. Propos recueilli par Ronelie Timbonera.
Nous sommes venus voir le gouverneur pour voir comment on peut accompagner le gouverneur pour développer la province. Voir comment est-ce qu'on peut établir certaines infrastructures de la province malgré tout ce qu'il y a dans la comme agression, comme vous le savez, mais essayer de donner de l'espoir au peuple, voir qu'il y a encore des gens qui ont le souci de développer la province du Nord Kivu, du petit Nord qu'on a pour l'instant. Bon, on vient de discuter avec les gouverneurs, ils nous ont donné plusieurs pistes et on va les étudier. Nous avons trop souffert chez nous et on continue à souffrir et on s'est dit qu'on va pas croiser les bras. Si on croise les bras, ça sera l'avantage de nos ennemis. Donc nous avons besoin de redonner cet espoir au peuple. Nous sommes des hommes d'affaires. Dans tout ce qui concerne le business, on va les accompagner. On a parlé de l'aéroport, on a parlé des infrastructures routières, de tout ça. Même de création des usines avec la zone économique. On va essayer de mettre toutes les batteries en marche pour essayer de redonner cet espoir que j'ai continué à insister pour la population du Grand Nord.
Le ministère de l'économie nationale engage un processus d'intégration des mécaniciens dans l'économie formelle. Dans cette optique, une rencontre a eu lieu mardi à Kinshasa entre des représentants du gouvernement et des associations des techniciens en réparation automobile, présidée par Jocelyn Napa, conseiller chargé de la formalisation de l'économie informelle. Cette réunion s'est tenue au nom du vice-premier ministre de l'économie, Daniel Moukoko Samba. À terme, ces mécaniciens bénéficieront d'une formation assurée par la société CFAO, société multinationale spécialisée notamment dans le secteur de la distribution automobile, et certains deviendront revendeurs agréés de pièces d'origine à travers le territoire national, marquant ainsi une étape vers leur structuration et professionnalisation. Jocelyn Napa s'exprime au micro de Blaise Makassi.
Nous sommes venus parce que dans cette étape de diagnostic, c'est pas nécessaire de travailler au bureau, c'est mieux de travailler sur terrain pour palper la vraie réalité et les vrais problèmes qu'ils ont dans l'exercice de leurs activités. Et nous sommes arrivés, ils ont eu la parole, et comme vous l'avez entendu, leur grand problème, c'est autour des espaces de travail. Ils n'ont plus d'espace de travail. Alors ils ont eu leur première doléance, qu'on leur cherche des espaces de travail. La deuxième doléance, c'est la mise à niveau par rapport aux formations. Et le troisième, c'est l'accompagnement. Qu'on ne puisse pas venir seulement pour une journée, mais que nous soyons là pour les accompagner, pour marcher avec eux de façon permanente et connaître et d'emmener la solution aux problèmes qu'ils posent.
La République démocratique du Congo a rendu hommage hier, mercredi 2 juillet, à l'un de ses plus grands fils, Patrice Emery Lumumba. À l'occasion du centenaire de sa naissance, la mémoire du tout premier chef de l'exécutif congolais après l'indépendance a été célébrée dans tout le pays. Pour Robert Ngambi, communicateur principal du parti lumumbiste unifié, Lumumba incarne encore aujourd'hui les idéaux de dignité, de souveraineté et de liberté du peuple congolais. Il voit en lui les symboles d'une nation fière et insiste sur l'actualité brûlante de sa vision politique, notamment sa doctrine de transformation de la nature qu'il considère essentielle pour accélérer les développements de la RDC. Robert Ngambi au micro de Blaise Makassi.
Lumumba s'est porté comme leader premièrement de la liberté. Et donc Lumumba s'est révélé comme l'incarnateur de la nation congolaise avec la vision de l'intégrité territoriale et la création d'une nation intégrée et homogène. C'est pourquoi d'ailleurs on les a appelés les nationalistes, dans le sens de créer une nation intégrée et homogène, débarrassée de tribalisme et des divisions ethniques. Troisième chose pour Lumumba, c'est la dignité. Mais également Lumumba s'est battu pour la souveraineté. Lumumba apprenait l'autorité, prise en charge, le travail comme valeur suprême. Lumumba pense que c'est le travail qui va nous développer. L'intégrité territoriale, la souveraineté, la dignité, la liberté, le travail et l'autoprise en charge demeurent encore les valeurs sur lesquelles le Congo doit travailler parce que et nous n'avons pas encore démontré la capacité de pouvoir transformer la nature. Nous ne sommes pas encore engagés pour un travail producteur capable de confirmer notre indépendance.
Focus sur la sécurité à Beni. L'insécurité prend de l'ampleur dans plusieurs quartiers de la commune de Rouenzori. Des hommes armés lourdement équipés ciblent régulièrement les habitations, sémant la peur au sein de la population. Face à cette montée de la criminalité, les autorités locales assurent qu'un renforcement significatif des dispositifs sécuritaires est en cours pour tenter de ramener le calme. Marc Marofimbo fait le point pour nous.
Il ne passe pas une seule nuit sans que les habitants des cellules Bado, Beler et d'autres du quartier Bouikène ne soient visités par des bandits armés. Ceci malgré les patrouilles menées par les forces de sécurité dans les 6 quartiers de cette partie de la ville. Une situation qui inquiète la société civile locale. Cette structure citoyenne demande aux autorités communales et aux forces de sécurité de redoubler d'efforts pour traquer les auteurs de l'insécurité dans la ville. Contacté, le bourgmestre de la commune de Rwenzori, le commissaire supérieur Rémi Masashi, affirme que des mesures sont mises en place pour faire face à la situation.
C'est prendre la situation dans sa globalité durant les mois qui se sont écoulés. Mais actuellement, il y a une petite accalmie dans le secteur de Bel Air, dans le quartier Bouikène. D'ailleurs, j'ai échangé avec l'autorité provinciale sur ça. Nous savons d'où viennent les soucis que la population est en train de déplorer. Et nous avons déjà, ensemble avec les services spécialisés et les services de défense, mise en place des dispositifs sécuritaires très importants pour pouvoir parer à toutes ces situations.
Signalons que les quartiers les plus visités par les bandits armés dans la commune de Rwenzori en ville de Beni sont Boikene, Païda, Mabakanga et Kasabignole. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
En Ituri, les sites de déplacés de Rowe dans les territoires de Djougou connaissent depuis mardi soir un nouvel afflux massif des populations civiles. Cet important mouvement est consécutif à l'attaque perpétrée par des miliciens de la coopérative pour le développement du Congo Kodeko contre une position des FARDC à Blukwaru, localité située à proximité immédiate du camp. En réponse à cette situation sont tendus, les casquets bleus de la MONUSCO ont renforcé leur patrouille des combats afin de sécuriser les abords du site et rassurer les déplacés. Les précisions de Jean-Claude Lokidile.
D'après des sources concordantes, tout a commencé aux environs de 16h15, heure locale, lorsque des miliciens de la Kodeko ont tiré plusieurs coups de feu à Masumbuko. Des sources de la société civile expliquent que ces hommes armés ont tenté par la suite d'attaquer les militaires des FARDC basés à Blukwaru, mais en vain, l'armée ayant réussi à repousser l'ennemi, ce qui a provoqué une panique généralisée dans la zone où se retrouve le site des déplacés de Ro. La plupart des habitants du centre commercial de Blukwaru ont passé la nuit près de la base des casques bleus de la MONUSCO à Ro. Nombreux sont ceux qui hésitent encore à regagner leurs habitations car la menace est encore présente, indique un acteur de la société civile présent dans la zone. Ce dernier s'inquiète que cet incident survienne quelques jours seulement après l'accord de paix signé par le leader de ce groupe armé à Arou. Grâce au mécanisme d'alerte précoce, les casques bleus de la MONUSCO ont lancé des patrouilles de combat pour garantir la sécurité des civils. D'après nos sources, des autorités coutumières locales, des leaders de ce groupe armé ainsi que d'autres notables des communautés se sont également impliqués pour ramener le calme dans la zone où la situation reste volatile et tendue. Bounia, Jean-Claude Louki, Dile, Radio Okapi.
Rencontre diplomatique au sommet à Kinshasa ce mercredi. La ministre congolaise de droits humains, maître Chantal Chambou, a reçu une délégation colombienne de haut niveau venue échanger sur les pratiques des justices transitionnelles. Objectif, croiser les expériences entre la RDC et la Colombie en matière de paix, de réconciliation et de respect de droits humains. La chef de délégation, madame Paola, a salué la richesse des approches congolaises, notamment en matière de justice transitionnelle. Pour le ministère congolais, cette visite s'inscrit dans une logique de coopération sud-sud pour construire ensemble une justice inclusive et durable. Cap sur l'éducation. L'examen national de fin d'études primaires s'est terminé ce mercredi 2 juillet sans incident majeur à Kinshasa, selon le ministre provincial de l'éducation, Jeannot Cano-Larose. Il s'est félicité des avancées enregistrées, notamment la gratuité effective des épreuves qu'il considère comme un pas significatif vers une école plus inclusive. Du côté élève finaliste, c'est un soulagement palpable. Malgré quelques difficultés rencontrées, ils se disent satisfaits d'avoir franchi cette étape cruciale de leur parcours scolaire. Un reportage signé Plotin Yambenga et Nancy Ntambo.
Ils étaient nombreux ces mercredis à sortir des sites d'examen à Kinshasa, déjà aux environs des 10 heures locales. Ils rentraient par groupe à leur domicile, tous habillés en uniforme bleu et blanc, neuf pour la plupart. Ceux qui se sont exprimés à notre micro ont exprimé leur joie de terminer les épreuves. Cependant, certains disent avoir rencontré quelques difficultés. Ils sont au total 235 749 élèves à avoir pris part à cette édition à Kinshasa. C'est la province éducationnelle de la Tchangou qui vient en tête avec près de 52 000 candidats. Chiffre révélé par le ministre provincial de l'éducation, Jeannot Cano-Larose. Et pour lui, il n'y a pas eu d'incident majeur. Ces épreuves de deux jours se sont déroulées dans 466 centres à travers la ville.
Indignation à Boma, dans le Congo central. La Fédération congolaise de droits de l'homme et de développement dénonce un viol présumé commis jeudi dernier à l'hôpital central par un médecin sur une patiente de 18 ans venue consulter pour un malaise. Dans une déclaration à Radio Okapi, le responsable de cette organisation, Gabriel Makissé, appelle à des sanctions exemplaires tant sur le plan juridique que professionnel, soulignant qu'il ne s'agirait pas d'un premier cas. Il encourage par ailleurs toutes les victimes d'abus à briser le silence et à porter plainte. Gabriel Makissé s'exprime au micro de Nana Plurish Mambou.
Nous sommes indignés contre un cas d'abus sexuel exercé le jeudi de la semaine finissante par un médecin sur une patiente à l'hôpital général de référence de Boma. La fille âgée de 18 ans, élève de la 6e année secondaire dont nous taisons le nom et l'identité, s'est rendue à l'hôpital pour se faire consulter au sujet d'un malaise. Malheureusement, le médecin appelé à la consulter a converti la consultation médicale en consultation amoureuse jusqu'à passer à l'acte sexuel contre le gré de la fille. N'ayant pas consenti à l'acte, la fille a fini par dévoiler auprès de sa mère et son oncle que les bourreaux répondent de ces actes tant sur le plan pénal que professionnel. Par ailleurs, nous exhortons à toute femme victime d'une telle pratique de dénoncer devant la justice ou encore devant les organisations de défense des droits de l'homme pour assistance afin de décourager les auteurs dans de telles pratiques.
À noter, le médecin mis en cause est actuellement en détention préventive au cachot du parquet près le tribunal de paix de Boma.
Actualité internationale.
Au moins 61 personnes sont portées disparues après le naufrage d'un ferry la nuit dernière, selon l'agence indonésienne de secours. Le navire qui transportait 53 passagers et 12 membres d'équipage a sombré vers 23h20, heure locale, 15h20, temps universel, au large de l'île des Bali, précise un communiqué de l'agence de recherche et de sauvetage des Surabaya. 4 survivants ont pu être secourus dans les premières heures de la matinée du jeudi, selon une mise à jour des autorités.
L'invité.
La Banque mondiale mobilise 8 milliards de dollars pour soutenir le développement socio-économique de la République démocratique du Congo, une enveloppe ambitieuse destinée à accompagner des projets stratégiques portés par le gouvernement congolais pour décrypter le contour de cet appui financier et des priorités visées. Nous recevons dans ce journal comme invité Albert Zefak, directeur pays de la Banque mondiale en RDC. Il répond aux questions de Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour monsieur Albert Zefak.
Bonjour monsieur Ndongala.
Le gouvernement congolais et la Banque mondiale ont conclu des accords de financement portant sur 5 projets majeurs, dont la construction du barrage hydroélectrique Inga 3. Que retenir globalement de ces partenariats?
Alors ce qu'il faut retenir, c'est que le partenariat entre la Banque mondiale et la République démocratique du Congo est robuste et se porte bien. Nous avons, au cours des 3 dernières années, non seulement mis en œuvre des projets qui sont censés changer la vie des Congolais, par exemple les projets d'eau potable, les projets d'éducation, les projets de santé, mais aussi lancer des projets d'infrastructures d'envergure comme l'autoroute qui partira de Bujimayi jusqu'à Bukavu. Et ces nouveaux projets viennent aussi dans la même lignée des projets transformatifs dont le barrage de Inga, mais aussi tout le corridor d'infrastructure et de développement qui pourrait partir de l'océan Atlantique jusqu'à Kinshasa. Il ne s'agit pas seulement d'avoir du financement, il s'agit de transformer ce financement en meilleures conditions de vie des populations par une mise en œuvre transparente, une gestion sans corruption et un contrôle de gestion efficace.
Ces partenariats et de quelle durée? Et si ce n'est pas un secret, le financement s'élève à hauteur de combien?
Le portefeuille de la Banque mondiale pour la République démocratique du Congo s'élève à près de 8 milliards de dollars. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a une caisse quelque part qui a 8 milliards qu'il faut se partager. Non, il s'agit des engagements de financement des projets que le gouvernement demande et que la Banque mondiale accepte de financer. Et les nouveaux engagements que nous venons de signer sont pour les 5 projets d'à peu près 2 milliards de dollars, dont 250 millions pour le Grand Inga et la première phase d'une grande enveloppe d'un milliard sur 10 ans pour permettre au Congo et à la région et à l'Afrique de réaliser finalement ce rêve de construire le barrage de Inga 3 pour donner l'électricité à la population mais surtout aux entreprises pour créer des emplois pour les Congolais. Nous avons également ce projet de digitalisation qui va mettre près de 400 millions de dollars avec un cofinancement de l'Agence française de développement de 100 millions d'euros pour s'assurer que la numérisation fasse partie des pratiques aussi bien de transparence dans l'administration, de gestion, de collecte des revenus, de gestion du budget, n'est-ce pas? La numérisation est
essentiel pour la bonne gouvernance, mais aussi créer l'espace pour l'entrepreneuriat numérique, pour que les jeunes puissent créer leur propre emploi dans le domaine du numérique pays. Nous sommes également en train de travailler pour lutter contre les érosions, lutter contre les inondations.
Très important, oui.
Pour les villes congolaises, puisque le changement climatique est réel. Nous voyons de plus en plus la fréquence de ces inondations, la fréquence de ces glissements de terrain. Nous devons anticiper plutôt que de réagir.
Comme on dit, un homme prudent voit le mal de loin.
Tout à fait, n'est-ce pas?
La Banque mondiale est dans plusieurs projets. Alors, quels sont les mécanismes mis en place pour identifier les besoins réels des populations ciblés par ces projets?
Les besoins réels sont identifiés par la Banque mondiale, mais aussi et surtout par le gouvernement. Je voudrais préciser que le gouvernement fait la demande des projets et la Banque mondiale les accompagne et les finance. Nous avons énormément de travail à faire au Congo, où plus de 60% de la population vit toujours avec un revenu qui est en dessous de 2,15 $ par jour. Donc c'est ça la pauvreté extrême. Notre mission, c'est d'éradiquer cette pauvreté en créant la prospérité. Et la prospérité, ça passe par l'emploi. Donc il faut former, il faut investir dans les infrastructures pour permettre aux entreprises de croître. Il faut investir dans l'accès à l'énergie. On ne peut pas faire fonctionner les entreprises sans électricité. Et c'est ce que la Banque mondiale est en train de faire à travers cette mission 300. La mission 300, c'est ce programme qu'a mis en place le nouveau président de la Banque mondiale, Ajay Banga, qui voudrait que d'ici à 2030, 300 millions d'Africains supplémentaires aient eu accès à l'électricité. Et au-delà de 2030, des projets comme Inga 3 viendront effectivement permettre à ce que la majorité, si ce n'est tous les Congolais, aient accès à l'électricité.
Ça favorise l'autonomisation.
Absolument. C'est ça le développement.
C'est bien. Vous identifiez les projets avec le gouvernement, vous financez, mais il se pose aussi, comme vous l'avez dit, un problème d'exécution.
Problème de mise en œuvre.
Avez-vous un message à lancer?
Je dirais, j'ai un message plutôt à lancer à toute l'élite congolaise. De commencer à penser à ces financements, pas comme des cadeaux, mais comme des outils pour permettre à la population congolaise d'avoir accès à des meilleurs services, pas pour permettre à quelques-uns de devenir prospères.
Albert Zefak, merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci beaucoup, Monsieur Nongala.
Albert Zefak, directeur pays de la Banque mondiale en RDC, était l'invité de Blaise Ndongala Mayanda. Il a détaillé les axes prioritaires de l'appui financier de 8 milliards de dollars accordés à la RDC. C'est la fin de ce journal. Mise en onde, Dieudonné Nyangasa. Présentation, Gisèle Cage. Supervision éditoriale, Pélékipé Lamondo. Merci de votre fidélité et de nous avoir suivis. Restez à l'écoute de Radio Capi pour la suite de nos programmes. À très bientôt pour une nouvelle édition.